chapitre 35.
Filature indienne.
11h36.
Imelda n'a pas bougé depuis plus de 10 minutes. Elle continue de se tenir debout dans l'ombre du flamboyant, pensive, observant le 4x4 noir. Sur le trottoir d'en face, le vendeur de chouchous la regarde avec méfiance. Imelda fait semblant de chercher son téléphone portable dans son sac, puis de consulter une quelconque application. Nul n'est censé deviner que son vieux téléphone est incapable de faire autre chose que de mettre en relation deux personnes qui veulent se parler. Imelda réfléchit. Le Chevrolet Captiva devant elle est égaré vendredi après-midi sur le parking de l'hôtel Alamanda, à l'heure de la disparition de Liane Bellion. D'expérience, la Caffrine ne fait pas confiance au hasard. Les choses ont toujours une bonne raison d'être à leur place. Les choses comme les gens. La coque tiède du portable lui réchauffe la paume. Imelda hésite. En toute logique, elle devrait appeler Christos. Lui expliquer, lui donner le numéro de la plaque d'immatriculation. L'affaire serait réglée et elle pourrait se la sortir de la tête. Christos se moquerait d'elle, mais si elle insiste, il ferait tout de même les recherches. Christos n'est pas un mauvais homme. C'est même le meilleur homme qu'elle ait connu. Il est sans doute le plus fainéant, le plus infidèle, le plus vieux aussi, celui qui jouit le plus rapidement en elle et qui s'endort plus vite encore ensuite, le plus alcoolique, le plus accro aux amales, le plus blanc. Mais pourtant, il n'y a pas de hasard. Elle a observé Christos lorsqu'il ne joue pas au macho, au flic désabusé ou à l'amant cynique. Quand l'espace d'une seconde, il ramasse machinalement la poupée de Jolie, qu'il contrôle d'un regard furtif l'état du scooter de Nazir, ou même, lorsqu'elle lit, et qu'elle sent son regard par-dessus son épaule. Pas le regard d'un homme que le soleil et l'alcool font bander, celui d'une tendresse inavouée. Oui, à bien y regarder, Christos est un homme qui mérite d'être aimé. Le Chevrolet Captiva cligne des yeux. Les phares se sont allumés 3 fois. Imelda recule encore derrière le tronc tout en scrutant le parking. Un homme pointe une clé électronique vers le véhicule. Un malbar. Une sorte de tonneau boudiné dans un kurta et coiffé d'une casquette kaki, décorée d'une tête de tigre rouge. Il doit peser au moins autant qu'elle, mais mesure 20 bons centimètres de moins. Il tient coincé sous son bras gauche un sac marron, visiblement plein à craquer de victuailles achetées à la case à pain. L'instant suivant, le malbar disparaît dans la voiture. Imelda doit rapidement prendre sa décision. Téléphoner à Christos et passer pour une idiote? Laisser tomber et y repenser sans cesse? Foncer dans sa vieille polo garée à 10 mètres et suivre ce 4x4, juste histoire de tirer un peu le fil. Il n'y a pas de hasard.
Imprimé. Christos se penche vers l'ordinateur et clique sur l'icône. La vieille imprimante crache péniblement des lettres rouges sur une feuille A4. Christos a dû modifier la couleur du fichier PDF que Graziella Doré vient de lui faire parvenir par mail. Il n'y a plus de tonnerre noir dans la cartouche et il n'a jamais su la changer. La directrice du Blue Bay a mis moins d'une demi-heure pour prendre sa décision et lui envoyer la liste de ses employés du Cap Champagne, il y a 10 ans. 7 noms. Le fichier est daté, tamponné, signé. Christos sait qu'il faudra prendre le temps de vérifier cette liste, de la croiser avec les fichiers URSAF, de contacter chaque témoin, de recouper leur version. Plus tard. Sa boussole, c'est l'instinct d'Imelda. Il doit chercher le lien entre le passé et le présent, les employés du Cap Champagne et ceux de l'Alamanda. Christos arrache la feuille de l'imprimante et peste. Le rouge a viré au rose clair. Il n'y a presque plus de tonnerre de couleur non plus. Dans la gendarmerie, 2 enceintes reliées à un PC diffusent en continu sur VHF les communications entre les brigades du Comgende. Christos peut suivre presque en direct la traque de Bellion, son arrestation imminente, les ordres qui chorégraphient le ballet des hélicos. Tous, Aja comme La Roche, ont autre chose à foutre que de s'intéresser à un accident vieux de 10 ans et à des témoins créoles dont on ne sait même pas s'ils ont quelque chose à raconter. Christos porte la feuille à ses yeux. Même à moitié effacé, il parvient à lire les 7 noms. Mohamed Dindane, René-Paul Grégoire, Patricia Toquet, Aloé Nativel, Joël Joyeux, Marie-Joseph Insidou, François Calixte ou Françoise Calixte peut-être. Le sous-lieutenant relit la liste une seconde fois, s'attarde un moment sur le quatrième nom, fronce quelques rides de son front en signe de méditation, puis plie la feuille et la fourre dans la poche de son pantalon. Sa décision est prise. Puisqu'il n'a rien de mieux à faire, il va aller rendre visite à Armand Zutor et à ses employés. Même un lundi de Pâques, il doit bien en rester quelques-uns de garde pour les derniers touristes. C'est à peine à 1 kilomètre de la BTA et le rhum y est excellent.
Le 4x4 noir est arrêté au céder le passage à la sortie de l'Ermitage. Imelda a laissé 3 voitures s'intercaler entre sa Polo et le Chevrolet. Elle l'a suivi. La curiosité a été la plus forte. D'ailleurs, elle se rend compte qu'effectuer une filature sur l'île n'a rien de compliqué. Il n'existe qu'une seule route qui longe la mer et les véhicules s'y suivent pendant des kilomètres sans se doubler. Heureusement d'ailleurs. Sa vieille Polo rouge est particulièrement repérable, avec sa portière arrière gauche orange récupérée à la case de la source. Christos n'a jamais pris le temps de la repeindre. Le 4x4 passe les avirons. Sous la route qui surplombe la ravine, quelques chèvres se partagent de rares touffes d'herbe emballées dans des papiers gras. Imelda peste. Le Malbar va-t-il ainsi continuer jusqu'à la côte au vent? Tout en tenant le volant d'une main, elle compose le numéro de téléphone de la case. Nazir, c'est maman.
Qu'est-ce que tu fous, eh ? On t'attend ?
Je vais être un peu en retard.
Tu rentres pour manger quand même ?
Peut-être pas. Tu peux t'occuper de Dorian, d'Amic et des petites ?
Non.
Imelda étouffe un juron dans sa Polo. Le Chevrolet roule au pas dans l'étang salé. Elle imagine Nazir, la cigarette de Zamal à la bouche, incapable du moindre effort. Elle élève le ton. Ben si, tu vas y arriver, mon grand. Il y a du curry de poulet dans le frigo. Pas assez, mais tu ajouteras des légumes. Je te laisse voir ce qu'il y a dans le jardin. Le 4x4 entre dans Saint-Pierre, puis tourne vers le lotissement de la ligne Paradis. Nazir tousse dans le téléphone.
Oh putain, le délire !
Pour une fois, tu vas te débrouiller. Demande à Jolie de te filer un coup de main. Un silence. Pour une fois, répète Imelda dans sa tête. Ils peuvent bien se passer d'elle. Elle se sent comme une gamine qui fait le mur pour partir en boîte de nuit. Une amoureuse dont le cœur cogne à se rompre. Il faut qu'elle se calme. Tu vas y arriver, hein, mon grand ?
T'as l'air excitée, maman. T'as trouvé un bonhomme, c'est ça ? Un vrai ? Un cafre ?
Au fur et à mesure qu'ils progressent vers le lotissement de la ligne Paradis, les voitures se font plus rares. Imelda doit être vigilante si elle ne veut pas se faire repérer. Elle ralentit. Je dois raccrocher, Nazir. T'es pas idiot. Tu vas y arriver. Elle éteint le portable et le coince entre ses genoux. Le Chevrolet tourne à gauche, puis à droite. Quelques secondes après lui, elle s'engage dans un dédale de ruelles sales. Le 4x4 finit par entrer chemin Sapan, une impasse. Elle stoppe sa Polo au bord du trottoir. Un chien maigre vient renifler son pneu. Un rideau s'ouvre en face et une vieille en peignoir la fixe. Des gamins tapent dans un ballon entre 2 poubelles. Le quartier, copie conforme du sien à Saint-Louis. Elle n'est pas dépaysée. Elle sort de la Polo et avance à pied jusqu'à l'entrée de l'impasse. Le Chevrolet s'est garé devant une petite case au toit de tôle. Le luxe du 4x4 rutilant tranche avec la misère de la maison. Mais Imelda sait que certains créoles préféraient vivre sous les étoiles plutôt que de se priver d'une bagnole neuve. Le Malbar descend, disparaît dans la case. Imelda attend. 1 minute. Le téléphone sonne.
Maman, c'est Nazir.
La Caffrine lève les yeux au ciel. Je suis occupée.
Maman, on peut faire du riz à la place des putains de légumes du jardin ? Dorian, Amic et Jolie sont d'accord.
Ben voyons. Je suis occupée, mon grand.
Je comprends, maman. C'est oui, alors.
Imelda soupire. Ok, mais à partir de maintenant, Nazir, écoute bien ce que je vais te dire. Tu ne me téléphones plus. En cas d'urgence, tu ne m'envoies que des textos. Pigé ?
Pigé. Je suis content pour toi, maman. Profite bien.
Crétin. Il raccroche. 1 minute encore. Imelda hésite une nouvelle fois à appeler Christos. Dans les romans policiers, elle peste toujours contre les héros qui, pour des raisons parfaitement invraisemblables, refusent de demander l'aide de la police et finissent par s'attirer les pires ennuis quand ils ne se font pas trucider. Et voilà qu'elle devient aussi sotte. Le Malbar ressort de la maison. Il porte en bandoulière un sac presque aussi large que son tour de taille. Il enfourne le tout dans le coffre de la Chevrolet. Quelques instants plus tard, le 4x4 vibre et le double pot d'échappement crache son dioxyde de carbone. Imelda hésite entre remonter dans sa Polo et le suivre ou rester et inspecter la case de plus près. La curiosité pour la maison est la plus forte. D'ailleurs, le 4x4 disparaît déjà au bout de la rue. Imelda attend encore de longues minutes. C'est peut-être un piège. Le Malbar peut avoir repéré sa voiture, à l'instar de tout le reste du quartier, la vieille le nez collé au carreau, le chien qui s'est pris d'affection pour les trois autres pneus ou les gamins qui ont raté trois fois de peu la carrosserie. Mais il s'améliore. Imelda sort de la voiture. Elle a décidé de seulement fouiller le jardin, de glisser un œil à travers la fenêtre, peut-être si on distingue quelque chose. Elle téléphonera à Christos si le moindre détail l'intrigue. La barrière couine lorsqu'elle la pousse. Imelda écarte du bras un eucalyptus desséché. Elle avance encore. Les carreaux sont tellement sales qu'il est quasiment impossible de distinguer quoi que ce soit à l'intérieur. Ce n'est d'ailleurs pas la peine. La porte de la case n'est pas fermée. Elle est juste repoussée. La serrure rouillée ne semble d'ailleurs pas avoir servi depuis des années. Imelda est bien consciente qu'entrer serait la dernière des âneries. Elle l'a lu 1000 fois. Les témoins trop curieux se font toujours avoir ainsi, par excès de confiance. Elle observe la rue. Que pourrait-il lui arriver dans ce quartier, en plein jour? Elle a grandi dans un quartier comme celui-ci. Elle y a toujours vécu. Elle en connaît les codes, les rituels, ces vieilles espionnes, ces gosses qui piaillent dans la rue, ces hommes invisibles avant le coucher du soleil. Imelda serre le téléphone portable dans sa main et vérifie qu'elle capte du réseau. Puis elle pousse la porte de la case.